Évangile de Luc, chapitre 15, verset 11. Jésus poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. » Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son fils et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici... Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras. » En son honneur, parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors, le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Mais quand celui-là revient, ton fils qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici, il est retrouvé. Qu'est-ce qui sous-tend notre relation avec Dieu, ou peut-être notre absence de relation avec Dieu? Vivre avec Dieu, c'est déjà une bonne chose. Mais Dieu voit au-delà. Et dans la parabole des deux fils, Jésus parle des motivations. Ces motivations, pour les deux frères, ont des conséquences différentes. Ces deux hommes sont au bénéfice du Père, tous les deux, mais leurs motivations les ont conduits ailleurs que là où le Père le souhaitait et les a conduits loin de ce à quoi eux-mêmes aspiraient. D'habitude, on oppose les deux frères dans leur attitude. Mais en fait, ils ont des points communs dans les conséquences négatives surtout. D'abord, arrêtons-nous sur ce que Jésus dit sur ce fils cadet. Donc, ce sont les versets 11 à 24. Pendant des années, il faut quand même le souligner, il a obéi à son père. Longtemps, il a vécu dans un climat d'amour que son père lui témoignait. Mais voilà, il sent ses ailes pousser, il ressent un besoin de liberté et d'autonomie. L'autonomie, c'est de faire sa propre loi. Il pense qu'en restant dépendant de son père, il ne peut vivre comme il veut, comme il peut. Il ne peut être épanoui là, surtout en voyant son frère aîné, ce frère qui obéit mais sans joie. Il en a assez de la morosité à la maison. Quelque part, on comprend qu'il n'a qu'une envie, c'est de fuir. Cette indépendance vis-à-vis de Dieu, Dieu qui correspond au Père dans cette parabole, cette indépendance vis-à-vis de Dieu peut se vivre par n'importe qui. Nous décidons à certains moments de suivre notre propre volonté. Nous avons foi en nous-mêmes. Et nos besoins, nos sentiments l'emportent, nous orientent nos projets, nos décisions. Nous pouvons aussi réagir de la même manière à cause de l'attitude des autres. Nous avons de quoi être déçus par le comportement des autres. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Mais si nous sommes influencés autant que cela par ce que les autres vivent, c'est que certainement nous considérons moins notre relation avec Dieu que la relation que les autres ont avec lui. Ils se disent chrétiens et c'est comme ça qu'ils se comportent. Eh bien, ça ne m'aide pas à vivre avec Dieu. Quand les autres nous déçoivent, nous avons tendance à les fuir, mais en même temps, nous nous éloignons de la maison, l'Église, et aussi du Père, Dieu. Et pour ce jeune frère, rester près de son père, cela signifiait aussi rester près de son frère aîné. Mais plaçons-nous quelques instants du côté du frère aîné. Ça veut dire que nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis des autres. Notre manière de vivre notre foi influence celle des autres. Dans les deux sens, positif ou négatif. Refléter la morosité dans ma vie de tous les jours a une incidence sur ceux qui m'entourent, qui me voient vivre. Mais voilà, sans mettre sur le dos des autres la responsabilité de l'éloignement vis-à-vis de Dieu, Jésus insiste sur le fait que le fils cadet n'a pas voulu rester près de son père. C'est souvent trop facile de dire à Dieu, si je ne me suis pas engagé pour toi, eh bien c'est à cause du manquement des autres. Et donc, le fils le plus jeune ne réfléchit pas à ce qu'il perd en partant loin de son père. Il est aveuglé par ce qu'il réclame et ce qu'il exige de son père. En demandant la part de son héritage, il considère en fait son père comme mort, déjà. Il fait ce qu'il veut sans aucun souci de son père. Sans tenir compte de lui. Il est facile de fuir loin de Dieu et d'être attiré par la vie facile que nous offre la société et notre nature humaine aussi. Le Père avait un plan merveilleux pour ses fils. Il était prêt à accorder gratuitement selon les besoins et même plus. Ça, c'est la fin de l'histoire qui le montre aussi. Le plus jeune ne l'a pas compris et il est parti loin de lui. Mais quand nous ne le voyons pas, est-ce la faute du Père si ce fils n'est pas comblé ? Eh bien, c'est l'impatience qui l'emporte et qui oriente les décisions. Le problème est que nous croyons pouvoir suivre notre propre volonté en pensant que c'est plus épanouissant. Ce fils a voulu changer d'air, il a voulu se jeter à l'eau, mais il croyait savoir nager. Abandonner Dieu, plus ou moins, c'est chaque fois, en fait, s'éloigner de la vie. Dans son malheur, plus tard, il a compris que sa place avec son Père était en fait le meilleur endroit. Il a eu le courage et l'humilité de revenir à son Père et tout a changé. Le fils aîné, ce sont les versets 25 à 32, donc de l'évangile de Luc chapitre 15. Alors nous pouvons réfléchir à son attitude d'après la réaction de la fin du récit. Parce que c'est souvent ce qu'on dit dans des situations difficiles qui révèle ce qu'on est profondément. Et d'une autre manière, pendant que son jeune frère vivait loin de la maison, l'aîné lui aussi fuyait. Ah, comment cela ? Puisque pourtant, il restait auprès de son père. Il travaillait pour lui, sans jamais lui désobéir. C'est en tout cas ce qu'il pense de lui-même. Que demander de plus ? Le problème, c'est qu'il ne travaille pas vraiment pour son père, mais pour lui-même, pour en retirer un intérêt. C'est un travail intéressé qu'il accomplit, mais pas un travail intéressant pourtant vu comme il réagit. Il travaille en fait pour qu'il soit reconnu, pour qu'on le considère dans la maison, qu'on dise de lui, en particulier son père, il travaille bien, lui. Pour qu'il puisse dire, je travaille donc je mérite. Je mérite, moi, de manger à la table de mon père. Il a beaucoup de mérite à ses yeux. Et cette image de lui-même lui suffit. Il ne pense même pas à demander à son père ce que celui-ci est pourtant prêt à lui donner, sans contrepartie, gratuitement. Il ne peut même pas penser à se réjouir quand son frère revient. Tout est centré sur lui. C'est bizarre quelquefois que certains critiquent facilement sans savoir se réjouir de ce qui se passe à côté d'eux. Et la grande colère qui gronde en lui révèle que cette attitude ne le satisfait pas. Malgré sa vie exemplaire, selon ses critères bien entendu, et peut-être selon les nôtres aussi, il n'est pas épanoui et il estime que son père ne sait pas reconnaître tout ce qu'il fait pour lui. Sa conception du devoir et du mérite n'a fait que l'aigrir et le faire vivre dans l'amertume. Avec ce que j'ai fait, je mérite que Dieu me bénisse. Ou alors, au contraire, je ne comprends pas. Avec ce que j'ai fait de bien dans ma vie, comment Dieu ne me supprime pas ses épreuves ? Ou encore, j'ai péché. Je le reconnais et je ne peux pas profiter du pardon de Dieu. Toutes ces réactions ont un point commun. Mon attitude déterminerait celle de Dieu. C'est moi, en fait, qui suis au centre. C'est peut-être un esprit d'obligation qui me fait avoir une bonne apparence, qui me fait faire de bonnes œuvres, non par amour, mais par devoir ou par intérêt. Ce fils aîné s'est fait lui aussi une loi qu'on peut estimer belle et bonne par rapport à celle que le jeune frère s'est faite. Le problème, c'est que cette loi n'est pas celle de son père. Il est autonome, lui aussi, tout en restant au service du père. Ah ! Et en fait, ces deux réalités, l'autonomie et rester au service du père, ces deux réalités cohabitent en s'opposant, d'où la colère intérieure. Quelle était sa motivation pour travailler dur et longtemps, des années ? En fait, il ne recherchait pas tant la volonté de son père, mais derrière une obéissance exemplaire, il recherchait son intérêt. Et cette fausse soumission entraîne une vraie frustration et une insatisfaction profonde. C'est-à-dire le contraire de ce à quoi il aspirait et le contraire de ce que voulait lui donner son père. Le cadet a franchi la porte en la claquant. D'accord. L'aîné est resté, lui, dans une situation quand même sécurisante, mais totalement insatisfaisante parce que centrée sur lui-même. Jusqu'au retour de son frère, il paraissait un modèle en raison de tout ce qu'il faisait, mais sans amour véritable, sauf pour lui-même. Sans amour véritable parce que vécu d'une manière égocentrique, pour qu'il y ait en quelque sorte retour sur investissement de la part du père. Et ce retour n'y est pas. Cela devient une évidence quand son frère, le frère indigne, revient. La colère explose parce que son frère lui fait ombrage. Son père n'a Dieu que pour celui qui ne mérite rien de ce que pourtant il reçoit. Tandis que lui qui méritait n'a que le sentiment amer de constater l'indifférence de son père, et cela depuis si longtemps. En fait, il réagit comme les pharisiens, et c'est peut-être dans cette optique que Jésus donne cette parabole. Il réagit comme les pharisiens vis-à-vis de Jésus qui avait, lui, accepté de manger avec des pécheurs, des publicains, des voleurs, des prostituées. Le père donnait le meilleur à son fils corrompu. Après lui avoir donné la moitié de l'héritage, sa part, je ne sais pas, peut-être que j'extrapole, mais normalement l'aîné aurait dû logiquement recevoir une part plus importante que les autres, et il a partagé son bien. Déjà là, il y avait une injustice flagrante selon ce frère aîné. Après avoir accordé le pardon à son fils indigne, après l'avoir comblé de ce que lui, ce frère aîné, n'avait jamais reçu, lui qui l'avait servi si longtemps, il explose. Ce fils a le cœur sec et égoïste parce qu'il n'a pas compris la dimension de la grâce. La grâce qui est cet amour immérité que le Père accorde à celui qui l'accepte. Ce frère aîné est resté rivé sur lui-même et n'a jamais pu concevoir autre chose qu'à travers ce que lui faisait. Ah ! On n'a, semble-t-il, rien à lui reprocher, comme peut-être nous pensons pour nous-mêmes. D'après ce que nous faisons, pour ce qui concerne le bien, ou ce que nous ne faisons pas, tout ce que nous faisons pour éliminer le mal. Rien à lui reprocher, sinon qu'il vit sans amour, sauf pour lui-même. Mais cela, c'est de l'autosatisfaction. Ce fils ne demandait rien, il se suffisait à lui-même, et cela faisait de lui un insatisfait chronique. Le Seigneur veut nous donner sans compter. Il veut pour cela, eh bien, que nous le lui demandions. Jésus dit au début de son ministère, « Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, car le royaume des cieux est à eux. » Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 3. Mais cela, aucun des deux fils ne l'a compris, sauf quand le plus jeune a accepté d'être accepté. quand il a accepté de recevoir sans rien mériter, quand il a accepté ce qui est le point de départ d'être pardonné pour vivre la réconciliation. Et le reste lui a été donné ensuite. L'autre élément aurait dû se trouver chez ce frère aîné. C'est d'être animé de l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur, c'est-à-dire celui dont il est la source, celui qu'on reçoit de lui, mais aussi celui qu'on lui manifeste en retour. Ce n'est pas un amour centré sur nous-mêmes, ce n'est pas un amour intéressé, mais un amour qui recherche l'honneur de Dieu et le bien des autres. À la base, le Père aimait ses fils, et cela s'est manifesté à travers la liberté qu'il accorde à chacun. Il ne s'est imposé à aucun des deux. Pendant des années, il les a laissés libres de se fourvoyer dans leur voie. Mais aucun des deux ne l'aimait en retour. En fait, ils aimaient leur image. Ils aimaient ce qu'ils faisaient. L'amour, lui, implique un échange. Le cadet l'a compris à un moment donné, mieux que celui qui est resté avec son père. En fait, il n'était pas avec son père, il en était très éloigné. Il est dans les champs quand nous le voyons, à l'extérieur de la maison, à l'extérieur de l'union, de la présence avec son père. Ensuite, nous le voyons qui refuse d'entrer dans la maison. Celui-ci, au lieu de la colère, aurait dû aussi s'humilier de sa mauvaise attitude, comme son jeune frère l'a fait. La vie de plénitude passe par là, dans l'humilité devant Dieu. Je termine par quelques versets qui nous montre ce que Dieu veut pour nous. Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Alors nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes à ses yeux. Notre texte dans l'Épître aux Galates. Puisque vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils, et tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Par votre union avec Christ, dit l'apôtre Paul aux Colossiens, vous êtes pleinement comblés. Quel privilège! Chacun peut connaître ce privilège, à condition de ne rien chercher à mériter et simplement de l'aimer en retour.